Vous avez été nombreux à la demander, nous l'avons enfin organisée. La première Makers Conference se tiendra Inch'Allah le samedi 20 avril 2024 à Paris, La Défense. Cet événement d'une journée, organisé par Muslim Makers, rassemblera des acteurs engagés de la communauté musulmane pour explorer des thématiques clés d'actualité telles que le leadership, la culture au travail, les nouvelles technologies, l'investissement et l'entrepreneuriat. La Makers Conference est aussi l'occasion unique de s'inspirer et de réseauter avec d'autres Muslim Makers, de partager vos idées et de collaborer pendant toute une journée dans un espace adapté et élégant, pouvant accueillir plus de 150 personnes. Pour réserver vos places, rendez-vous sur makersconference.fr. En plus de ça, je vous ai réservé un petit cadeau, une réduction de 20% à durée limitée avec le code promo MuslimMakers. Les détails pour en profiter sont en description de l'épisode. Hâte de vous voir sur place. Salam alaikum, bienvenue sur MuslimMakers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
On peut faire plein de choses avec de l'argent, en tout cas on peut faire du khair. L'argent n'est qu'un révélateur. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, vous allez faire encore plus de bien. Vous êtes déjà une mauvaise personne, l'argent ne fera que renforcer en fait, ce trait de caractère, c'est tout. Les gens ont peur de l'argent parce qu'ils ont peur de découvrir en fait, quelque chose de... ils ont peur peut-être de devenir orgueilleux, de devenir... Mais finalement, l'argent n'est qu'un révélateur. Si vous devenez orgueilleux, c'est que vous l'étiez déjà. Donc le travail doit se faire sur le cœur et pas forcément dire que c'est l'argent la cause.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah, Sabria.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
Comment vas-tu?
Ben ça va, alhamdoulilah. Très bien, je suis très contente d'être ici aujourd'hui.
Bah écoute, je suis enchanté de t'accueillir sur le podcast. Toi, donc, tu es en direct de La Réunion.
Exactement.
Mashallah, je crois que c'est le premier podcast que je fais avec un petit en direct de La Réunion.
Ah bah pourtant, à La Réunion, il y a beaucoup de musulmans.
Ouais, il y a beaucoup de musulmans. Ouais. Enfin, peut-être que tu m'en feras connaître quelques-uns pour les prochains podcasts. Tu me disais que c'était la saison des pluies, la mousson en ce moment, donc il y avait des cyclones, tout ça.
Oui, là en ce moment, c'est vraiment le... On est en pleine saison cyclonique. Donc effectivement, c'est... il faut prévoir, on prévoit certaines choses au niveau professionnel, même au niveau personnel. Puis du coup, Allah nous rappelle que c'est lui qui décide et que quand il y a des cyclones, bah, on arrête tout. Et on attend que ça passe et alhamdoulilah, on est content d'être en sécurité. Voilà.
Bon, bah écoute, on va parler un petit peu plus tard, parce que c'est intéressant aussi la Réunion, c'est un endroit assez spécial.
Oui.
Donc Sabria, je te laisse te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais à La Réunion? Parce qu'il me semble que tu as grandi en France. Métropolitaine, je vais dire, parce que La Réunion, ça fait partie de la France aussi. Mais voilà, dis-nous tout.
Alors, je suis Sabria, effectivement. Donc, je suis, on va dire, formatrice en finance islamique et aussi donc, consultante ou gestionnaire de patrimoine. Donc, j'aide les personnes, finalement, à comprendre comment appréhender le monde de l'économie, de la finance au quotidien de façon licite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire gagner son argent, dépenser son argent, investir son argent de façon licite. Ça, c'est vraiment ma mission. Et on va dire que ma motivation première, c'est vraiment la lutte contre le riba. Voilà, si on peut définir Sabria, c'est celle qui s'est donnée comme mission de lutter contre le riba. J'aimerais que ma communauté, que notre communauté aujourd'hui, finalement, en sorte, même si c'est peut-être utopique. Mais j'aimerais vraiment qu'en tout cas, on fasse la démarche de se dire que c'est possible, on peut sortir du riba et Inch'Allah, on va y arriver. En tout cas, on voit de beaux résultats aujourd'hui, donc c'est possible. Alors, La Réunion, pourquoi La Réunion? Alors déjà, parce que je suis originaire de La Réunion. Donc, mon père est né à La Réunion. Moi, j'ai grandi en France. Et donc, je suis convertie, hein, parce que beaucoup de personnes souvent se posent la question, me disent « bon bah, toi, tu viens du Maghreb » et tout ça. Pas du tout. Par contre, je suis mariée avec un Algérien. Et pourquoi La Réunion? Parce que du coup, ici, il faut savoir qu'il y a beaucoup de musulmans et que c'est un petit peu le berceau aussi de la finance islamique, hein, en France, on va dire. Parce qu'il y a énormément d'acteurs, enfin, pas mal d'acteurs, on va dire, de la finance islamique qui sont originaires de La Réunion aussi. Donc, le fait d'être ici, c'est quand même, ça a du sens pour moi. Et pourquoi La Réunion? Tout simplement parce qu'on est parti avec mon mari étudier au Maroc. Et qu'ensuite, pour les études de mes enfants, revenir en métropole, c'était intéressant parce que, parce qu'ils sont quand même d'une culture européenne, enfin française. Et revenir en métropole, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas revenir à La Réunion finalement, puisque c'est un peu mes origines. Voilà.
La Réunion, c'est une île que j'apprécie particulièrement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud, vraiment au sud, pas loin de Madagascar et de l'Afrique du Sud.
Oui, parce que tout le monde place La Réunion avec les Antilles, donc ça n'a rien à voir. Alors, les Antillais, je les salue, hein, ce sont des cousins, mais ça n'a rien à voir, vraiment. Hein. C'est-à-dire que La Réunion, c'est plus vers l'île Maurice, Madagascar, c'est l'océan Indien. Donc, La Réunion est peuplée de toutes les origines, en fait, on va dire. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle La Réunion, parce que vous allez avoir des communautés indiennes, donc vous avez eu des Arabes, des Portugais, les Anglais. Enfin, vraiment, il y a eu. C'est un melting pot impressionnant. Il y a des métissages que vous ne retrouverez partout, enfin nulle part ailleurs, en fait. Et c'est un petit peu ça aussi qui me porte, dans le sens où ces valeurs-là de vivre ensemble, moi, je les ai toujours eues. Et je pense que ça a vraiment été très, très fondateur pour moi, ou en tout cas, ça a été très important dans mon cheminement de vie. Puisque quelque part, au départ, enfin ça c'est un petit peu pour ma vie personnelle, mais je pense que c'est important aussi de le rappeler. Au départ, on se cherche tous un petit peu de savoir qui on est, pourquoi finalement on a été créé, quelle est notre mission sur Terre, qu'est-ce que Allah attend de nous. Et finalement, nos origines quand même nous donnent une indication. Et moi, avec La Réunion, j'ai vu que voilà, il y avait plein de mélanges, mais clairement, en arrivant en France, je n'ai pas trouvé ma place. C'est-à-dire que j'étais toujours soit la Française qui avait des origines un petit peu, on ne sait pas trop, soit j'étais la musulmane après quand je suis devenue, on va dire quand je me suis convertie, soit j'étais la musulmane, mais du coup qui n'est pas réellement d'un pays arabe. Donc vraiment un peu, toujours un petit peu le vilain petit canard, on va dire. Mais finalement, l'islam nous rappelle aussi que bah, qu'on est de partout, on est de nulle part et on n'est que des voyageurs. Du coup, rester sur ses origines, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Le fait que justement on puisse se dire qu'on vit avec tout le monde et qu'on est humain avant tout, c'est peut-être le plus important. Voilà.
D'accord, merci. Donc Sabria, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses autant à la finance islamique? Est-ce que c'est un truc, un parcours que tu as avec ton mari aussi? Tu as dit que vous avez étudié ensemble au Maroc, c'était par rapport à ça ou autre chose? Et pourquoi, donc, est-ce que tu étais destiné à, enfin, destiné, est-ce que tu as fait un parcours dans la finance, que tu as ensuite orienté vers la finance islamique? Raconte-nous un peu ce cheminement vers la finance islamique.
Alors, en fait, j'ai l'impression que moi, ma vie, j'ai jamais réellement. Je me suis un peu laissée porter par le vent. C'est-à-dire, j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études, finalement. Donc, j'ai pris ce qui était accessible. Donc, j'ai fait un BTS force de vente. Alors que j'étais vraiment pas passionnée par la vente, mais on va dire que c'était ce qui se présentait. Ensuite, pareil, moi je comptais arrêter, puis finalement j'avais une amie qui m'a dit non, viens, on va continuer, on va faire une école de commerce. Elle était beaucoup plus, beaucoup plus ambitieuse que moi. Et finalement, je me suis laissée porter. Donc je lui ai dit, allez, on va faire l'école de commerce en alternance. Donc moi, je travaillais dans une boîte d'informatique et en même temps, j'ai validé ma maîtrise. Et ensuite, bah, je suis rentrée sur le marché du travail. Donc assez rapidement, puisque du coup l'alternance m'a permis d'avoir de l'expérience. Et à l'époque, il y avait encore du travail, enfin à peu près. Donc j'avais l'opportunité soit de travailler dans l'informatique ou soit de rester sur Lyon, parce que du coup, moi après j'étais sur Lyon. Et là, j'ai intégré la banque, parce qu'on me proposait une bonne formation, un bon salaire, des conditions qui étaient intéressantes. Enfin vraiment, moi je regardais que le côté, on va dire, matériel, et puis je cherchais à avoir un CDI comme tout le monde, enfin bref. Et là, en même temps, j'avais aussi ce côté, je commençais à m'intéresser vraiment à l'islam, enfin je m'y intéressais déjà depuis un petit moment. J'ai intégré la banque, je me suis formée, j'ai eu vraiment une très grosse formation parce que c'était une comment dire, une intégration entre guillemets pilote. Ils formaient des personnes pour être multi-compétents, on va dire, donc dans plein de domaines. Il y avait la fiscalité, la bourse, les assurances. Enfin, vraiment, on touchait à beaucoup, beaucoup de domaines différents. On a eu une formation quasiment sur 2 ans. Donc, c'est énorme. C'est pas l'équivalent de ceux qui sont dans le domaine bancaire de l'ITB, mais voilà, c'était quand même assez costaud. Et donc, en intégrant la banque, vraiment, j'ai beaucoup aimé je vais pas dire ce domaine, mais cette science de se dire, bah, finalement, l'argent, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut financer. Ce rapport à l'argent, je ne l'avais pas du tout. Donc, j'ai beaucoup appris en étant dans ce milieu-là. Mais clairement, ça ne convenait pas du tout à mes valeurs, puisque du coup, je commençais à m'intéresser beaucoup à l'islam et je voyais qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Donc, au bout d'un moment, pour faire rapidement, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible d'évoluer dans ce domaine. Donc, j'ai démissionné et on a décidé avec mon mari de partir, donc là, au Maroc. Et pourquoi la finance islamique? Parce qu'après, alors c'est pas forcément tout de suite au Maroc, mais après, non, d'abord on est parti à La Réunion, pardon. Avant de partir au Maroc, on est parti à La Réunion pour étudier, parce que c'était le premier centre de formation, on va dire, des ulama. C'est l'ITMR, pour ceux qui connaissent. Donc on est venu ici à La Réunion pour se former. Donc c'est il y a longtemps, il y a 20 ans hein, presque. Hein. Et là, moi j'ai pris des cours de mon côté avec donc du coup le cheikh, si vous connaissez, le cheikh Mohamed Patel, qui n'était pas encore dans la finance islamique et justement qui partait. Il partait en France pour se former en finance islamique. Et donc là j'ai découvert la finance islamique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette finance? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Et pourquoi finance islamique? Et donc là j'ai commencé à m'y intéresser, mais je me suis formée du coup de mon côté parce qu'en France il n'y avait rien. Il y avait, mais quand je vous dis rien, c'est rien, rien du tout. Pour vous dire, même le cheikh Mohamed Patel était en train de se former. Donc, c'était qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, moi, je me suis formée plutôt en Angleterre, donc avec les Anglais. Donc, déjà, j'avais une vision très anglo-saxonne de la finance islamique. Hein. Et d'ailleurs, je ne regrette pas parce qu'ils avancent beaucoup, beaucoup plus vite que nous dans l'Hexagone. Voilà. Donc, voilà comment est venue la finance islamique dans ma vie.
D'accord. Quand tu dis que tu étudiais ensemble avec ton mari, c'était aussi la finance islamique ou c'était juste la science de la religion ou d'autres choses que vous faisiez ensemble?
Alors lui, non, c'était vraiment, donc à l'ITMR, c'était le programme vraiment de sciences religieuses, le fiqh en général. D'ailleurs, c'était la première année qui proposait le fiqh maliki, parce qu'à La Réunion, il faut savoir que ce sont des Hanafis. Donc,
Ouais.
vraiment études bah, des hadiths, du Coran, un gros programme. Et moi, j'étais plus à la maison, c'est-à-dire avec mes enfants, parce que du coup, j'avais 2 enfants, 2 petites. Donc moi, je m'occupais d'elles et en même temps, je leur permettais aussi de commencer leur apprentissage à la mosquée qui était juste en face. Puisqu'à La Réunion, il faut savoir qu'on a un système donc qui est assez performant pour de madrasa, donc qui permet aux enfants d'aller à la madrasa tous les jours. Donc
Oui.
vraiment tous les jours. Donc ils y vont tous les jours et ceux qui veulent apprendre, donc c'est pas tous, mais ceux qui veulent devenir hofaz, par exemple, à 14-15 ans, généralement, ils
Ouais.
font leur khatma. Et voilà. Donc,
Ouais, c'est ce que
un
j'avais
bon,
pu
en tout cas,
entendre.
un bon modèle, en tout cas pour un pays, pour un endroit non arabophone, un bon modèle pour apprendre sa religion.
Ouais, c'est très tiré aussi du modèle d'apprentissage. Indo-pakistanais aussi, je pense.
C'est ça. Oui, bah parce que du coup, la communauté musulmane de La Réunion, c'est surtout une communauté indo-pakistanaise. Donc, ils se sont calqués vraiment sur ces méthodes-là et qui sont très efficaces, hein, vraiment très efficaces. En France, ça serait peut-être bien d'essayer de mettre ça en place aussi. C'est-à-dire parce que moi, je me suis rendu compte rapidement aussi qu'avoir un cours par semaine pour mes enfants, c'était vraiment pas suffisant. Vraiment pas suffisant. Sans parler de la science. Déjà, la science en elle-même, bon, un cours par semaine, c'est pas, voilà, ça va pas révolutionner la chose, mais c'est surtout le fait d'être en constante connexion avec ce monde-là, avec la mosquée, avec les ulama, avec les sœurs. Aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on est justement déconnecté de ça et ça pose énormément de problèmes par la suite.
Ouais.
Le fait d'y aller
Ouais.
tous les jours, c'est quand même, même si c'est juste pour y aller, c'est important.
Ouais. Alors, en général, la finance islamique, enfin, c'est plutôt une population très masculine qui s'intéresse à la finance de manière générale et aussi à la finance masculine. Il y a très peu de personnes au niveau des femmes. Et dans la finance islamique, je n'en connais pas grand monde. Donc, je connais toi et j'avais interviewé à l'époque Rabia, Tabiel.
Oui,
C'est Tabiel, hein, son nom de famille, c'est ça?
c'est ça, bien et bien.
Donc, déjà, c'est un secteur assez difficile, mais en tant que femme, est-ce que c'est encore plus difficile?
Bah oui, bah je vais t'expliquer en toute transparence. Hein. C'est-à-dire qu'au
Ouais.
départ, effectivement, moi, je suivais Rabia Tebbiel depuis déjà un petit moment. J'avais fait, pour ceux qui connaissent la WMA, c'était un
Ouais.
programme de web marketing, mais pour un autre domaine, puisque du coup, moi, après, je suis vraiment rentrée dans l'entrepreneuriat, mais dans autre chose. C'est-à-dire que la finance islamique, c'était pour moi. C'était vraiment pas dans un but commercial. Je me suis pas dit, bon, bah, je vais faire des cours de finance islamique ou je vais monter une banque islamique, je vais révolutionner. Pas du tout. C'est-à-dire que en tant que convertie et de Taliba, on va dire, ma volonté, c'était surtout de comprendre ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais pas le droit de faire, est-ce que je pouvais investir, comment rester dans l'illicite en fait avec mon argent, en fait, c'était ça, notre argent dans le couple. Mais absolument pas des visées professionnelles. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu, donc Rabia, je la suivais, je voyais ce qu'elle faisait, mais je la trouvais bien isolée dans son monde. Mais vraiment, je me disais, Mashallah, elle est courageuse parce que le monde de la finance, en ayant connu le monde de la finance traditionnelle, un monde très masculin, et en voyant le monde de la finance islamique, je me suis dit, c'est un milieu qui est quand même assez particulier. Et d'ailleurs, mes débuts, on va dire, quand j'ai commencé un petit peu la finance islamique, donc déjà, ça a été très très long parce que beaucoup de blocages, hein, il a fallu que je me dise non, mais en fait, il faut que tu y ailles parce que là, il n'y a vraiment personne et il n'y a personne qui est formé en finance islamique. Parce qu'il faut savoir que moi, je pensais, comme j'étais convertie, je pensais que tout le monde était formé à la finance islamique. Je pensais que c'était tellement évident. Et que, en fait, bah, ça m'est même pas venu à l'idée de me dire je vais proposer des formations parce que pour moi c'était tellement évident. Et quand j'ai accompagné des femmes dans l'entrepreneuriat, des femmes de la communauté musulmane, je voyais qu'elles faisaient des choses qui n'étaient pas licites ou qu'elles n'avaient pas certaines notions par rapport à la zakat, par rapport à l'héritage, par rapport à l'investissement tout simplement. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être les sensibiliser par rapport à certaines choses. Donc, ça s'est fait dans le cadre de mes accompagnements individuels au départ. Et puis ensuite, elles m'ont dit, mais est-ce que ça serait possible que tu nous fasses peut-être une mini-formation pour qu'on sache les fondamentaux quand nous, on est entrepreneur, par exemple, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ça a un peu commencé comme ça. Et après, j'ai élargi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir les bases de la finance islamique, de ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, pour qu'on puisse vraiment tous les jours se dire, ben là, je peux par exemple payer avec ma carte, je peux faire du cashback, je peux payer en 4 fois sans frais, je peux, voilà, je peux ou je ne peux pas. C'est-à-dire, ça, c'est des choses de la vie courante. Et c'est le B à bas de la finance islamique. Parce qu'après, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, voilà, le but, c'était ça. Alors, le milieu masculin, oui. Alors ça, oui, c'est un milieu très masculin. Donc, très difficile, je ne vais pas dire très difficile de faire sa place, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, moi, je n'ai pas de place à faire, en fait. J'ai pas, ce que je fais, c'est de la sensibilisation. Je suis en contact avec des femmes qui veulent être en confiance et qui veulent pouvoir se confier. Parce que l'argent, quand on parle d'argent, on parle de choses qui sont intimes. C'est intimement lié à notre vie personnelle. Donc, c'est compliqué pour des femmes d'aller voir un homme et de lui dire, bon, ben voilà, j'ai envie d'investir. Oui, mais d'accord, on est obligé de poser des questions. Investir, mais tu veux faire quoi avec ton argent? Quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu es marié? Tu es marié sous le régime de la communauté? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que ton mari, voilà, par exemple, on peut aussi poser certaines fois dans certains pays, on peut demander aussi, est-ce que ton mari, est-ce que tu es la seule épouse? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Enfin, vous voyez, on peut aller très très loin dans l'intimité des gens. Parce qu'on a besoin de connaître l'intégralité de la situation pour pouvoir les conseiller au mieux. Donc le fait qu'il y ait des femmes, c'est très important, vraiment.
Oui. Et donc toi, tu accompagnes principalement les femmes ou que les femmes? Ou tout le
Alors
monde?
oui, moi, mon souhait, c'est d'accompagner, déjà de former, donc vraiment des formations. très ciblé au départ, très ciblé professionnel, c'est-à-dire que les premières qui se sont inscrites à mes formations, c'était surtout, par exemple, des juristes, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine. Enfin, et le but, c'était ça. C'était vraiment de former des professionnels pour qu'elles, à leur tour, elles puissent, sur le terrain, faire des choses et puis sensibiliser auprès de leurs clients, puis même auprès, du coup, de leur famille, de leurs proches. Je trouvais que le milieu professionnel, c'était vraiment la meilleure opportunité pour une sensibilisation efficace. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, certaines personnes se sont rapprochées de moi en disant, OK, on se forme ou tu nous sensibilises, mais maintenant, on veut trouver des solutions. C'est-à-dire, on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais concrètement, en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, j'étais obligée de basculer finalement dans le côté gestionnaire de patrimoine. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent aujourd'hui? Bah, tu as la possibilité d'investir dans ça, 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 ça. Voilà, ça c'est le côté plus, on va dire, gestionnaire de patrimoine. Au départ, clairement, il n'y avait quasiment rien. C'est-à-dire qu'il y avait de l'or. Donc, il y a toujours eu Rabia avec Inaya, donc machin là. Et puis, quelques produits type SCPI, ou voilà, mais pas, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il y a ça, c'est, je vous parlais il y a 2 ans. Donc, c'est pas si loin. Aujourd'hui, le domaine de la finance, en tout cas l'investissement islamique, a vraiment a une autre forme. Il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. Et alhamdoulillah, ça bouge vraiment. D'une part, parce que les gens se forment, s'intéressent. Il y a une demande de plus en plus grandissante, puisqu'il y a une prise de conscience avec non seulement les crises économiques, mais aussi l'actualité. Et aussi, bah, il faut savoir que la France est quand même assez, entre guillemets, en retard par rapport à toutes ces problématiques-là, en tout cas par rapport aux autres pays d'Europe, et qu'aujourd'hui, il y a un réveil de la communauté musulmane sur ces questions-là. Donc, c'est plutôt une bonne chose.
D'accord, tu as pu voir une croissance là récemment, ces dernières années, très importante. Ça a beaucoup évolué.
Ah, clairement. Ah non, mais clairement, ce n'est pas une croissance, là, c'est une révolution. C'est-à-dire que, et en plus, quelque chose qui va très très vite et qui va même trop vite, enfin, par rapport à la sensibilisation qui est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est encore à sensibiliser les gens sur tout ce qui est donc le riba, parce que c'est vraiment notre grande crainte et surtout notre ennemi numéro un, on va dire. Après, il y en a d'autres, mais c'est surtout celui-là. Et donc, on en est encore à ça. Alors qu'on passe aujourd'hui à des choses, donc il y a tout un cheminement après, hein, c'est-à-dire se familiariser avec la richesse, parce qu'on a de gros blocages aussi, surtout bon, les femmes, les hommes, mais pareil, hein, on a de gros blocages par rapport à l'accession à la richesse. Est-ce que finalement, en étant musulman, on a le droit d'être riche? Donc on a encore à se poser ces questions-là, ça c'est problématique. Et donc une fois qu'on sort de ça, on se dit, bon, ça y est, maintenant j'ai de l'argent. Bon, déjà, je mets en place une stratégie pour avoir de l'argent. Ensuite, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Cet argent-là, je vais penser à investir. Donc là, déjà, tu comprends que de passer de je réfléchis à limiter le riba à maintenant je commence à investir, il y a déjà tout un cheminement. Mais ensuite, à partir de là, il y a les premiers investissements qui sont safe, c'est-à-dire on commence à investir parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des risques. Parce que je vous rappelle qu'en finance islamique, la seule façon pour justifier le profit, c'est la prise de risque. Donc si on n'est pas capable de prendre du risque, on ne peut pas justifier de profit. Mais d'un autre côté, on veut du profit tout le temps. C'est-à-dire qu'on veut être riche, mais sans prendre de risque. Ça, c'est riba. C'est-à-dire être riche, c'est-à-dire faire du profit. Ce n'est pas du profit, c'est faire de l'intérêt sans prendre de risque. C'est la définition du riba. Et nous, on n'en veut pas. Donc c'est comment on fait? Il faut qu'on se forme, en fait, il faut qu'on appréhende le risque. Donc, bien sûr, chacun selon sa capacité, pour pouvoir justement dégager du profit. Donc, ça, c'est tout un apprentissage. Et ensuite, à partir du moment où là, on commence à se sensibiliser par rapport à ça, et bien là, il y a des investissements qui vont être très, très intéressants. Mais là, aujourd'hui, la population n'est pas prête. On n'est pas prête à investir dans tout ce qui est investissement start-up, par exemple. On n'est pas prêt à investir dans tout ce qui est projet numérique, donc dans tout ce qui est crypto-monnaie. Bien sûr, tout ça, c'est cadré, c'est licite. Hein. Je ne vous parle pas des choses qui sont farfelues, qui sont illicites. Il y a des choses qui sont licites aujourd'hui, mais est-ce que la communauté française est prête, musulmane, est prête à ça? Ben, je pense
Pas
pas.
encore.
Pas encore.
Ça
Il y en
viendra,
a qui,
Inch'Allah.
j'ai des clientes, oui, j'ai des clientes qui le sont déjà, hein, et qui, vraiment, mashallah, elles s'y intéressent, elles se forment, et c'est bien, parce qu'il faut absolument qu'on s'y intéresse. De toute façon, je vous rappelle qu'en 2026, on passe en euros numériques. Donc, prêt ou pas prêt, on sera bien obligé de le faire. Donc, autant s'y préparer, et autant, justement, peut-être se former, comprendre, pour ne pas être mangé encore. Je sais pas quelle sauce, mais voilà.
Ouais. Quel est le profil des femmes qui veulent un accompagnement sur la gestion de patrimoine? Est-ce qu'il y a un profil ou plusieurs profils
Oui. Bah, clairement, je définis ce profil. Donc, c'est des femmes plutôt d'un âge mûr, on va dire. Enfin, mûr, même. Bon, on va dire que oui, j'ai deux types de profils. J'ai soit des femmes qui ont déjà une certaine situation professionnelle et qui sont en recherche de sens, c'est-à-dire par rapport à leur activité et aussi à leur relation avec l'argent. C'est-à-dire qu'elles me disent j'ai de l'argent. C'est pas l'argent, c'est pas un problème, j'en ai. Mais il reste sur un compte et je ne sais pas quoi faire avec. Et je trouve que ça a pas de sens. Et elle se pose les bonnes questions en réalité. Parce que l'islam ne nous demande pas d'avoir un compte blindé qui est en train de. Enfin, de l'argent qui est en train d'attendre. C'est clairement de la thésaurisation. Donc non, aujourd'hui, on doit essayer de trouver des alternatives à cet argent pour pouvoir le réinjecter dans l'économie réelle. Ça, c'est le but de tout musulman, pour pouvoir non seulement préserver ses biens, donc ça, c'est vraiment. Le but aujourd'hui, c'est pas de. Enfin, moi, en tout cas, quand j'accompagne les personnes, je leur dis, moi, le but, c'est pas de faire des millions. C'est pas comme les pubs qu'on voit en disant, tu vas gagner le million, tu vas. Parce que ça, il faut aussi qu'on fasse très attention. Notre épreuve, à nous, la communauté de Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam, c'est l'amour des richesses. Voilà, c'est l'amour de l'argent. Donc, on doit aussi faire très attention à ça, ne pas tomber là-dedans. Mais d'un autre côté, on doit aussi rechercher la richesse. Donc toujours avoir en tête que on doit rechercher la richesse toujours pour la satisfaction de notre créateur. Si on garde ce mindset-là, eh ben c'est gagné. Mais tous les jours, il faut renouveler son intention parce que la tentation, elle est grande. Elle est vraiment grande. Donc le but de ces femmes-là, on va dire, le profil, c'est vraiment des femmes qui gagnent bien leur vie. Et qui sont en quête de sens et de spiritualité. Elles ont envie de faire les choses bien. Donc, du coup, elles me contactent et elles me disent, moi, si c'est pour mettre mon argent dans du riba, ça ne m'intéresse pas. Elles sont même prêtes à prendre du risque, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où c'est licite. Vraiment, leur première préoccupation, c'est ça. Donc, c'est des femmes qui ont déjà des enfants. Elles vivent généralement en région parisienne, la plupart du temps. Mais bon, après, j'ai des personnes d'un peu partout. Voilà, ça, c'est vraiment, comme on dit, ma cible de cœur. Mais après, j'ai une deuxième catégorie, on va dire. C'est les plus jeunes. C'est les plus jeunes, celles qui débutent leur activité, qui commencent à gagner de l'argent aussi, et qui, elles, sont déjà, en fait, dans la réflexion, en se disant, moi, je veux gagner de l'argent licite, licitement, et je veux investir. Et elles ont vraiment pas froid, pas froid aux yeux, pardon. Elles ont vraiment pas froid aux yeux. C'est pas la même approche. Voilà, c'est pas la même approche, mais c'est tout aussi intéressant.
D'accord. Tu disais plutôt l'important, c'est de garder en tête qu'on va acquérir des richesses pour Dieu. Ça, enfin, non, pour avoir la satisfaction de Dieu, je crois. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? En quoi avoir acquis de la richesse, ça permet d'avoir la satisfaction de Dieu?
Alors, je me suis beaucoup informée par rapport à ça, par rapport à la recherche justement, enfin, quelle est notre relation finalement, quelle doit être notre relation à la richesse en étant musulman. Parce qu'il faut savoir que dans cette société bon, clairement capitaliste, hein, donc ça veut dire, capitaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, on préfère rémunérer le capital plutôt que l'humain, c'est ça. Donc on est dans une société qui aujourd'hui prône le fait que quand on a de l'argent, on en aura encore plus. Quand on n'en a pas, on en aura encore moins. Donc c'est ça, en gros, si on doit schématiser. Et je me suis dit, comment l'islam voit les choses? Eh bien, l'islam voit les choses différemment. C'est-à-dire que notre réussite personnelle, elle doit déjà être, c'est une réussite personnelle, mais surtout une réussite collective. Ça ne peut pas être une réussite que individuelle, parce que sinon, il y aura quelque chose, enfin, on aura raté quelque chose. Et là, le but de la richesse, finalement, quand on est musulman, c'est de se faciliter la vie pour pouvoir finalement être dans l'adoration. On le regarde juste simplement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème de subsistance, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, voilà, vous avez de l'argent, ça va être très facile pour vous de faire vos prières à l'heure, de prendre un mois de congé, par exemple, pour Ramadan, même si on peut travailler quand on fait un Ramadan, mais je veux dire, si vous voulez bien en profiter pour faire le Hajj, c'est plus facile aussi, vous pouvez partir, vous avez de l'argent, okay. Vous pouvez payer des cours pour vos enfants, ou même pour vous-même, pour vous former, pour... L'argent va faciliter les choses, va vraiment vous faciliter votre connexion avec votre créateur, puisque du coup, on va avoir beaucoup plus d'opportunités, et ça va être plus facile, en fait. L'argent va faciliter. Donc c'est en ça que je dis que gagner de l'argent, finalement, ça va nous faire vraiment, ça va vraiment nous aider pour devenir de bons musulmans. Mais attention, il ne faut pas qu'on tombe amoureux de l'argent. L'argent ne reste qu'un moyen pour pouvoir nous faciliter la vie et pour pouvoir aussi impacter, donc ça c'est au niveau individuel, mais impacter aussi notre société. On va aider des sœurs et des frères qui montent leur business en leur achetant leurs marchandises. On va investir dans des start-up musulmanes qui justement on va les aider à se développer. On va créer des emplois. On va, parce qu'on est par exemple une entreprise, je suis entrepreneur et du coup l'argent rentre, qu'est-ce que je fais? Je vais embaucher des stagiaires, je vais embaucher des gens. Je vais aussi faire des sadaqas, je vais pouvoir aider, construire des puits. On peut faire plein de choses avec de l'argent. En tout cas, on peut faire du rire. L'argent n'est qu'un révélateur. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, vous allez faire encore plus de bien. Vous êtes déjà une mauvaise personne. L'argent ne fera que renforcer, en fait, ce trait de caractère, c'est tout. Les gens ont peur de l'argent parce qu'ils ont peur de découvrir, en fait, quelque chose de... ils ont peur peut-être de devenir orgueilleux, de devenir... Mais finalement, l'argent n'est qu'un révélateur. Si vous devenez orgueilleux, c'est que vous l'étiez déjà. Donc, le travail doit se faire sur le cœur et pas forcément dire que c'est l'argent la cause.
C'est intéressant ce que tu dis. Et quand tu parles à des personnes, tu ressens ça un petit peu, les personnes qui... Enfin, différentes catégories de ceux qui veulent juste être riches pour être riches, ou bien être riches parce que, voilà, soit ils veulent juste avoir leur argent halal, mais ou bien qui veulent, qui ont cette vision lointaine d'être aussi utile à la communauté, à la société.
Alors, au début, quand on ne me connaissait pas trop, alors je ne vais pas dire que je suis très connue aujourd'hui, mais on va dire sur les réseaux, bon, je m'exprime assez clairement, on va dire. Donc, au début, quand peut-être c'était peut-être pas très clair, effectivement, j'ai eu des personnes qui étaient un peu, on va dire, schizophrènes, c'est-à-dire qui voulaient de l'argent licite, mais d'un autre côté, qui voulaient le million. C'est-à-dire, après, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de problème à vouloir être riche. Les plus riches, c'était nos prophètes, donc Daoud et Souleyman, qui étaient extrêmement riches. Donc on peut pas dire que en tant que croyant ou musulman, on doit fuir la richesse. Non, il y a des prophètes qui étaient extrêmement riches, il y a des sahabas qui étaient extrêmement riches. Donc je peux pas dire que c'est une mauvaise chose de vouloir être riche. Mais par contre, que ça passe en première position avant le côté licite, là c'est problématique. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de s'assurer que tous les investissements ou toutes les opérations que nous allons faire, elles sont d'abord licites et ensuite elles sont rentables. Et pas le contraire. Parce que on tombe beaucoup encore dans la communauté, dans le piège de c'est super intéressant, j'ai des rendements à 350%, j'ai vu quelques barbus, j'ai vu quelques femmes en hijab, donc c'est halal. Non, stop, là on arrête tout là. Parce que d'abord, la première préoccupation, ça a été de se dire 350%, c'est intéressant, et puis bon, c'est peut-être halal, mais bon, comme j'ai vu des musulmans dedans, c'est bon. Non, on doit être beaucoup plus strict et très pointilleux sur le côté licite des choses, surtout dans le domaine de la finance. Surtout dans le domaine de la finance, vraiment.
Quand on regarde un petit peu la machine capitaliste, comment les banques fonctionnent en Europe, dans le monde, et quand on regarde les produits islamiques qui existent, on se dit qu'il y a un écart tellement énorme qu'on pourra... Enfin, en fait, on reste toujours dans les contours, en fait. On ne touche pas vraiment à la source. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a cette pensée d'un jour voilà, révolutionner le tout ou bien créer une économie parallèle ou, enfin, je ne sais pas. Quelle est ta vision des choses?
Oui, très bonne question. Très bonne question. Je pense que jusqu'à maintenant, on vivait dans l'espoir que finalement la finance islamique pourrait, proposer des alternatives aux musulmans aujourd'hui, mais finalement en se calquant sur un domaine, sur un système qu'on connaît. C'est-à-dire on connaît le système capitaliste, nos banques, voilà, nos banques traditionnelles, et on s'est dit on va faire la même chose, mais on va le faire de façon licite. Pour moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Parce que tout est imprégné de capitalisme. Donc du coup, c'est difficile de basculer en fait sur une éthique islamique. Ça va juste être finalement la finance traditionnelle saupoudrée de finance islamique, saupoudrée de halal. Et chose bon, qui peut être une transition. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une transition. On est dans une transition parce qu'on est en mode réflexion. Donc, il faut passer par ce système-là pour comprendre justement que ça n'est pas qu'on doit... on ne doit pas s'arrêter à là. En fait, on ne doit pas s'arrêter à cette situation-là. Parce que l'économie islamique, ce n'est pas du tout l'économie capitaliste. Donc, du coup, aujourd'hui... Si on doit comparer la finance traditionnelle, donc la finance, on va dire la finance usuraire, hein, d'accord, avec la finance islamique, on va dire que la finance islamique nous représente 2, maximum peut-être 3 maintenant, mais 3% des transactions mondiales dans le monde, donc financières. Donc c'est peanut, c'est rien du tout. Donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc c'est vraiment rien du tout. Par contre, c'est une finance qui est très active et qui a une croissance à 2 chiffres, donc qui est en train de vraiment se développer. En marketing, c'est simple. Comment est-ce que quelqu'un peut intégrer un marché quand il y a déjà un leader, enfin un monopole, et qu'on arrive avec, on va dire, les mêmes principes, les mêmes armes pour se démarquer? C'est impossible. C'est impossible. On se fait écraser directement en arrivant sur le marché. La finance islamique, la seule façon qu'elle va avoir pour se développer, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'elle va avoir une stratégie de niche, ce qu'on appelle. Pour ceux qui sont dans le marketing, ils comprennent très bien ce que c'est. C'est vraiment de se spécialiser dans un domaine particulier et d'être la meilleure dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la niche de la finance islamique, c'est la fintech. C'est-à-dire vraiment la finance technologique, ou, voilà, technologique. C'est-à-dire tout ce qui va être lié clairement à tout ce qui est blockchain, tout ce qui est la crypto-monnaie, crypto-currencies, crypto-actifs, tout ça. Tout ce monde-là, en fait, la finance islamique est en train de se nicher dedans. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Parce que ça va être la seule façon d'avoir une finance beaucoup plus propre et qui va répondre vraiment aux besoins des musulmans aujourd'hui. Alors, je sais que ça fait peur à tout le monde parce que on n'est pas formé, parce qu'on ne comprend pas encore tout ce système. Mais franchement, je vous assure, en ayant fait des formations, en ayant suivi quelques spécialistes de ce domaine et puis en étant vraiment dedans maintenant, je vous assure qu'il y a de très, très beaux projets et que pour l'avenir, c'est peut-être justement la porte de sortie des musulmans, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois.
Affaire à suivre, alors.
Affaire à suivre, voilà.
J'allais dire Rabia, rien à voir. Sabria, plutôt.
Vous avez presque
un prénom qui se ressemble.
Et puis, c'est un honneur, franchement, c'est un honneur qu'on m'appelle Rabia parce que c'est mon amie, Mashallah, et vraiment, elle Mashallah. A fait un boulot extraordinaire.
Sabria, pour les auditeurs et auditrices qui découvrent un petit peu la finance islamique, qui s'intéresse un petit peu à tout ça et qui ne mettent pas forcément en pratique quoi que ce soit dans ce domaine-là, vers quoi tu les rediriges? Est-ce que tu peux les rediriger vers du contenu? Enfin, pour les sœurs, je pense que c'est assez simple, mais pour les frères, pour tes formations, je pense que ça touche tout le monde, les formations, je ne sais pas.
Alors, pour mes formations, alors c'est vrai que j'ai des grosses formations, vraiment, comme je t'ai dit, plutôt orientées professionnelles, mais bon, il y a aussi des non-professionnels qui s'inscrivent. Ça, c'est vraiment entre femmes. Après, je fais des ateliers. Donc, je fais des ateliers régulièrement et les ateliers, là, ils sont mixtes. Alors, il y a quelques temps, ils n'étaient pas mixtes, mais j'ai eu une pression quand même de la part des messieurs qui m'ont dit « Mais nous, on n'a pas de formateurs qui proposent ce type d'atelier. » Donc, je leur ai dit que le temps, justement, que je forme des personnes pour avoir des interlocuteurs hommes, et ben, pour l'instant, ils pouvaient assister donc, à mes ateliers donc, mixtes. Mais qu'après, quand vous avez sur le marché des messieurs qui pourront faire le job, bah, écoutez...
Il y en a pourtant, il y en a beaucoup, non?
Ça dépend, par exemple. Bon, moi, je fais des ateliers très ciblés, par exemple, bourse. Bourse, il n'y en a pas énormément. Il y a peut-être des formations en e-learning, mais des ateliers avec des vrais acteurs, des humains, qui accompagnent, où on en discute, et puis voilà. Il n'y en a pas. Il y en a, en France, il n'y en a pas tellement. Hein. Deuxième chose, je fais aussi, par exemple, là, je vais faire une formation typiquement contrat, donc les partenariats commerciaux, donc la Moucharaka, la Moudaraba, Bah, ça non plus, je ne vois pas. Je vois le côté théorique, c'est-à-dire oui, vous pouvez vous former, il y a des formations qui sont très théoriques, notamment par exemple avec l'IFAS qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez le MBA en finance islamique, mais encore une fois, ça c'est un MBA, donc c'est plutôt à visée professionnelle, et puis il faut être disponible, et puis c'est un certain coût aussi, donc ce n'est pas, pas vraiment pour de la sensibilisation. Vous allez avoir qui en France, il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment. Hein.
D'accord, je vois.
Donc du coup, voilà, là par exemple, atelier sur les partenariats commerciaux, parce que pour moi, ça me paraît tellement important. Il y a beaucoup de sœurs ou de frères aussi, mais bon, moi je connais plus les problématiques des sœurs, qui s'associent, mais qui ne connaissent absolument pas ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire, en termes de, par exemple, de capital, qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans le capital, comment doit être faite la répartition. Ensuite, quels sont les droits et les devoirs de chacun dans cette association. Ensuite, comment est-ce que vous allez faire la répartition des bénéfices et des pertes. Ensuite, comment vous allez déterminer la fin de cette association. Comment est-ce que vous allez vous répartir donc les bénéfices ou pas. Enfin bref. Et comment on fait la différence entre Moucharaka et Moudaraba. Enfin vraiment, il y a tout ça, c'est du chinois, hein, vraiment. Hein. Quand je parle de ça à certaines personnes, on dit je ne sais pas du tout de quoi tu parles, alors que ça fait partie quand même de notre patrimoine religieux. Donc on doit absolument se former là-dessus. Enfin pour moi ça me paraît tellement important. Donc voilà, où se former, ben plutôt dans le monde anglo-saxon. Hein, donc moi ce que je dirais c'est déjà première chose, la première des formations c'est la lecture du Coran. Hein, clairement vous avez énormément de contenu dans le Coran. Sur l'appréhension, enfin comment appréhender la richesse, les exemples des sahaba, enfin pas des sahaba, des prophètes. Vous avez vraiment les histoires, enfin le qasas, vraiment vous avez plein de choses sur la richesse, sur les interdictions, sur l'héritage, sur la zakat, sur enfin vraiment tout. Après bien sûr les hadiths, mais il y a des formations aussi, il y a des formations. Moi j'aime bien le cheikh Mourad Hamza, à chaque fois je fais de la publicité. Vraiment, par exemple, il sensibilise, bon, il fait tout ce qui est zakat et tout, mais il sensibilise à l'héritage, il sensibilise à la finance islamique, il fait vraiment un travail pour les francophones, c'est juste magnifique. Donc,
ouais.
Et anglophones, oh, alors là, vous avez plein de choses, hein. Vous avez Almir Colan, vous avez le cheikh, en français, vous avez le marocain, donc le docteur, professeur Lahlou, plutôt, vous avez qui après dans l'anglophone vous avez donc Adam Hamdar, le Shir Faraz
Adam Faraz,
voilà Mufti, bon enfin il y en a plein, on mettra une liste.
Ouais, pour les anglophones, merci beaucoup à Sabria, j'allais dire à bien encore purée Sabria, donc
là,
on arrive
là.
My bad, ma faute. Alors Sabrina, on arrive à la fin de ce podcast. On va finir par quelques petites questions de fin. Quelles sont les compétences les plus utiles au travail dans ta vie de tous les jours que tu utilises?
Très bonne question. Bah, je pense la rigueur, la persévérance, la patience.
La résilience.
Ouais, la résilience aussi, oui, tout à fait. Non, je pense qu'il faut avoir un mindset de vainqueur. Vraiment de vainqueur pour pouvoir non mais pour dans ce domaine ouais. La finance c'est pas évident parce que c'est un monde très très noir, hein, clairement c'est un monde très noir, donc ça veut dire il faut toujours revenir au Coran, à la source. Si on n'est pas attaché, si on n'est pas proche, en fait on se perd très rapidement, vraiment très rapidement. Donc c'est ça, je dirais les qualités premières c'est d'être d'essayer d'être une bonne croyante. Voilà. C'est la seule chose qui peut nous protéger.
Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais?
Ce que je préfère, on va dire... alors, dans le travail que je fais, bah, former. Moi, j'ai toujours aimé former. J'étais même professeur d'autre chose avant. Donc, j'étais professeur de tajwid, professeur de français, professeur de... j'aime transmettre. Vraiment, j'aime vraiment transmettre. Donc, c'est vraiment ce qui me motive. Et ensuite, deuxièmement, j'aime trouver des solutions aussi. Donc, c'est le côté aussi entrepreneurial. Donc, j'aime trouver des solutions pour mes clients. Donc, quand elles ont de l'argent comme ça, et elles sont vraiment... Et c'est une souffrance, hein. On ne pourrait pas l'imaginer, mais c'est une vraie souffrance. C'est-à-dire que se disent, mon argent, en fait, je l'ai gagné, mais pourquoi faire? Je ne
Ouais.
fais rien avec. Et le fait de leur ouvrir des opportunités, enfin, ou en tout cas de leur dire, mais non, en fait, tu peux faire plein de choses et tu vas pouvoir faire de beaux projets. Et ben, on a l'impression qu'elles se réapproprient leur vie. Donc là, ça, c'est chouette. Et les sortir du RIBA, alors ça, je crois que c'est ma... Je crois que c'est ça, c'est une belle... comment dire une voie qui est difficilement comment dire, explicable, vraiment. Quand
Je
quelqu'un
comprends.
on me met des mots et qu'on me dit Sabrina, et des gens des fois que je connais pas du tout, hein, qui me disent, bon, bah, ça y est, j'ai fermé tous mes livrets A, ça y est, c'est fini, basta et tout, maintenant, c'est sur mon compte courant, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, quand j'ai ça, je suis refaite.
Il y a une question que je voulais poser avant, mais elle me revient sur ma femme qui on parle de ça. Comment est-ce que tu est-ce que c'est facile de gérer l'entrepreneuriat avec des enfants? En tant que
Ça, c'est
femme
une question.
surtout? Ouais.
Oui, en tant que femme, clairement non. Clairement non. Non, je vais pas vendre du rêve. Hein. Je veux pas dire oui, c'est super facile. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression qu'on a deux vies en une. Donc déjà, notre vie est courte. En plus, en tant que musulmane, on est quand même censé beaucoup apprendre, être toujours dans l'apprentissage. Donc c'est un temps qui nous passe. On a des objectifs aussi d'apprentissage. Donc du coup, nos choix, ils sont encore plus stratégiques. Voilà. C'est-à-dire que notre temps, il est tellement limité que c'est difficilement gérable, oui. Mais si on a un pourquoi fort derrière, bah, on le fait. On le fait et tous les jours où on se lève, on se dit, bah, alhamdoulillah, j'espère que ça va m'apporter la satisfaction de mon créateur. Mais c'est clair qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire, hein, comme par exemple notre propre apprentissage. Est-ce que mon propre apprentissage passe après mon entrepreneuriat? Ça, c'est un dilemme de tous les jours, hein. Ça, c'est sûr.
Oui, d'accord, très bien. Bah écoute, ouais, je pense qu'on connaît. Enfin, là, ceux qui passent par là doivent aussi connaître un petit peu ces difficultés-là. Mais c'est important de voir des femmes qui arrivent à s'en sortir quand même.
Je sais pas dans quel état on va s'en sortir psychologiquement, mais en tout cas, on continue.
Ça demande aussi pas mal de, comment dire, de synchronisation du coup avec le mari, de l'entraide, etc.
Ah,
Ou...
c'est clair. Ah non, mais c'est clair. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, ouais, derrière chaque homme qui a réussi, il y a une femme qui est derrière. Bah, c'est pareil. Après, moi, je parle pas pour moi. Je dis pas que j'ai réussi. C'est pas ça. Mais derrière chaque projet, il y a forcément un homme. Enfin, il y a forcément un homme. Ou si c'est des femmes qui font ça toutes seules, ben, vraiment chapeau. Parce que pour tout gérer, bravo, vraiment bravo. Il faut une famille, il faut un soutien, même un soutien psychologique, hein, clairement. Il faut un soutien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas. En plus, dans le monde de la finance, c'est pas toujours. Voilà, on ne se fait pas toujours des cadeaux, malheureusement. Ça aussi,
Ouais.
l'éthique islamique, ça, c'est, on aimerait que ça soit la réalité de la chose, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais on reste sur une note très positive. J'aime bien dire que la communauté aujourd'hui, c'est une très belle communauté. Vraiment, mashallah. Si on a une mauvaise image de la communauté, je dirais que ce sont plutôt nos détracteurs qui essayent justement de semer la zizanie entre nous en disant, oui, de toute façon, vous êtes limite des bons à rien, vous vous tirez dans les pattes. En réalité, quand on arrive à créer un noyau solide, ben, la communauté, elle est magnifique, vraiment.
Est-ce que c'est toi qui gères les finances chez vous? Peut-être une question indiscrète,
Pas
vu que c'est
du
toi qui
tout.
es l'experte en la
Pas
matière.
du tout. D'ailleurs, c'est très compliqué. Parce que c'est mon mari qui gère les finances, ça a toujours été comme ça. Bon, ben, bien sûr, il me consulte, hein, on est d'accord. Mais du coup, on n'a pas du tout le même profil risque. Lui, il est très raisonnable, bon
Conservateur.
père de
Ouais.
famille, voilà, très conservateur. Alors, quand je lui parle d'investir dans le Bitcoin, d'aller voir tout ce que fait Marhaba DeFi ou Sahel Wallet ou des choses qui sont très avant-gardistes et tout, alors là, pour lui, c'est très compliqué. Mais pareil, avec la sensibilisation, et quand du coup il comprend qu'on va y venir et qu'il faut absolument y penser, même que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos enfants, pour leur expliquer, parce que ça, on ne l'a pas abordé. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à nos enfants? Ça aussi, c'est une grosse problématique. on a des jeunes de 17-18 ans qui sont dans la crypto non licite, hein, et qui viennent me voir en me disant bah, en fait, moi, j'ai eu une éducation religieuse, mes parents sont très pieux, hein, mais je ne suis pas sûre de faire quelque chose de bien là. Et mes parents, ils ne peuvent pas me répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Ni les parents, ni l'imam de quartier, ni pas grand
Ah,
monde. Hein.
ni l'imam. Les imams, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils répondent déjà à plein de problématiques, problèmes de couple, problèmes d'éducation, problèmes. Tous les maux de la société, ils en ont déjà vraiment un paquet. Alors, si en plus on leur rajoute, qu'est-ce que tu penses de la crypto? Là, je pense que c'est trop pour eux, là. Il
C'est
faut,
trop, ouais.
franchement, il faut vraiment s'adresser à des personnes qui sont formées en finance islamique. Donc, non, mais déjà, même bon, en sciences religieuses, quand même, déjà un minimum. Sciences religieuses, finance islamique et finance traditionnelle. Vraiment les trois. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser une question sur des choses très, très spécifiques, la LOA ou voilà, même les cryptos, encore une fois, on revient toujours à la bourse, est-ce que je peux investir en bourse, les ETF, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous parlez à quelqu'un qui, même dans la finance traditionnelle, ne sait même pas de quoi il parle, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est compliqué.
Non, ça fait sens. Quelle est ta routine préférée? Est-ce que tu as une routine dans tout ce que tu fais qui t'aide à maintenir l'énergie, que tu aimes faire?
Ah bah oui, ah bah oui, toutes celles qui me suivent, elles savent. Donc je cours tous les matins. Donc voilà.
Joggeuse.
Je me lève à 5h30, j'emmène mon fils, donc comme je t'ai dit à la madrassa, 5h30. 5h30, je me lève, hop, je vais courir, je le récupère. Après, petit déjeuner,
En courant,
mosquée
tu l'emmènes
directe.
en courant.
Bon, non, lui, il ne court pas parce que déjà, 5h30, il est pas bien réveillé, hein. Mais donc non,
À
et après,
5h30,
direct.
Inch'Allah.
Ouais. À la Réunion, on se lève tôt. Et après, direct mosquée. Alors, je vais à la mosquée et là, je me suis vraiment battue pour pouvoir aller à la mosquée. Je vous raconterai pas tout parce que voilà. Mais il faut savoir qu'à la Réunion, par exemple, les mosquées, elles sont pas accessibles pour les femmes. C'est surtout parce qu'avec le madhhab Hanafi, c'est surtout pour les hommes. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont accès à la mosquée, mais les femmes sont plutôt censées rester chez elles. Donc, du coup, la vie à la mosquée, à La Réunion, pour les femmes, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai trouvé un système pour pouvoir y aller. Donc, tous les matins, comme ça me force. Parce que faire son Coran chez soi, enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pas possible.
Mais avoir un cadre spécial
Ah
spécifique.
oui. Non, non, oui. Oui, parce que sinon c'est la vaisselle, le ménage, il y a toujours quelque chose à faire et puis ou l'ordinateur qui m'appelle, le téléphone.
Ouais, non, c'est
Donc
vrai,
non,
c'est vrai.
il me faut la mosquée et donc comme ça, une fois que c'est fait, ça y est, je peux commencer ma journée. Je suis ouverte au boulot.
Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou quelque chose, une référence que tu recommandes fortement ou qui t'a marqué récemment ou que.
Alors la recommandation de livre, bah, c'est un peu prétentieux, mais c'est déjà le mien. Donc, pour l'investissement en bourse. Donc, ceux
Non,
qui veulent investir en bourse,
je
bah, ils
savais pas que tu
peuvent
avais un
aller sur
livre.
mon compte. Ouais, j'en ai fait un. Je me suis dit, parce que, en
Comme
fait, je
ça.
faisais. Oui, voilà. Non, mais comme je faisais les ateliers bourse, que je voyais que bah, j'en faisais pas assez. J'en fais pas assez des ateliers bourse. À chaque fois, j'ai toujours des personnes qui me posent les questions. J'aurais dit, j'ai vraiment formez-vous. Oui, mais chez qui? Bah, je sais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire un livre. Comme ça, ceux qui veulent attendre le prochain atelier pourront déjà commencer avec le livre. Donc, ils peuvent le commander sur mon compte Instagram. Par contre, je ne l'ai pas mis sur Amazon ni rien parce que je ne préfère pas travailler avec eux. Voilà. Donc, mais sinon, mes collègues. Donc, je dirais, bah, moi, j'aime bien comment dire, soutenir la communauté. Donc, forcément, je vais soutenir notre Jibril Ndoye, pour celles qui connaissent. Donc, c'est Finance islamique. Je ne sais pas si tu le connais, ce bouquin-là.
Ouais, de nom, je
Ouais.
n'ai jamais parlé à la personne, mais je vois c'est qui.
D'accord. Donc, c'est un quand même des acteurs de la finance islamique en France. D'ailleurs, qui faisait des conférences avec Rabia. Donc, machin là. Donc, son livre est quand même assez économique, hein, c'est-à-dire c'est macroéconomique, qui parle de la finance islamique en Europe, et pas forcément des solutions pratico-pratiques pour les gens, mais déjà c'est intéressant. C'est intéressant de voir un petit peu comment se structure, on va dire, la finance islamique pour ceux qui s'y intéressent. Après, je peux t'en donner un autre, j'en ai deux autres en fait. Bon, toujours l'héritage et testament, et à la lumière du Coran et de la Sunna. Alors, je ne te dirai pas le nom parce que franchement, je vais te dire la collection, c'est El Iman. parce que son nom, c'est Abdelhamid, mais j'arriverai pas à lire le. Je sais pas si tu vois.
Ah, d'accord, ouais, je vois, je vois. Delhamid, quelque chose.
Ouais,
Ok,
bon, je te le
très bien.
mettrai
Bon, je le
parce que
mettrai,
voilà.
je ferai un copier-coller.
Et sinon, celui-là est pas mal aussi. Donc, les finalités suprêmes de la finance islamique. Donc, ça, c'est pareil, le nom, je ne te dirai pas. Mais donc, c'est avec le commentaire de Abdelazim Abou Zeid. Donc, c'est celui-là, je te mettrai. Donc, pareil, c'est très, très économique, hein, mais c'est des bons rappels.
Ok, très bien. Écoute, j'ai tout noté et je mettrai ça en description, Inch'Allah. Et du coup, enfin, dernière question, mais je pense que tu as déjà un peu répondu. Comment suivre ton travail et te contacter si un auditeur ou une auditrice a des questions? Est-ce que c'est possible, j'imagine, par Instagram ou ton site?
Oui, LinkedIn aussi. Alors, LinkedIn, c'est plus pro, mais LinkedIn aussi. Donc, Instagram, sur mon site aussi, SC
Ouais.
Consulting, FR. Voilà. Non, mais généralement, sur Instagram, je suis assez réactive. Donc, on peut me contacter rapidement. Donc, on peut prendre les rendez-vous directement. On peut regarder ce que je fais. Donc, les différents ateliers, les formations e-learning. J'essaye de, voilà, d'avoir des formats qui s'adaptent un petit peu à tout le monde pour pouvoir bah, répondre aux problématiques de chacun. Voilà.
Génial. Bah écoute, Sabri, hein. Je ne vais pas me tromper cette fois. On arrive à la fin de
Ah,
ce
merci.
podcast.
Alors.
Ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ce que tu fais. Bah écoute, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment important et surtout en tant que femme, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Comme tu dis, bah, il peut y avoir des problématiques différentes, des approches différentes et ça touche au personnel parfois. Donc, et le fait de voir des sœurs impliquées aussi dans ce domaine-là, donc. Ça montre aussi que ça, c'est une industrie qui se démocratise de plus en plus et j'espère qu'il y aura de plus en plus de sœurs aussi. Voilà, je demande à Dieu qu'il mette la baraka, qu'il facilite tes projets pour la suite.
Amine, Amine, et je te remercie vraiment pour l'invitation. J'espère que justement ça va sensibiliser plus de sœurs et puis bah, plus de frères aussi, hein, du coup, à s'intéresser vraiment à cette finance éthique et islamique, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des solutions. On n'a pas parlé du côté gestionnaire de patrimoine, placer son argent, des choses comme ça, mais ça aussi c'est très très important. Donc vraiment, intéressez-vous à ce domaine-là pour que la communauté grandisse, hein, tout simplement, hein.
Excellent. Bah écoute, Sabrina, je te souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si c'est encore la période des cyclones à La Réunion, donc stay safe, hein. Et puis
Merci, merci.
à très vite. À très
Bah,
vite,
toi aussi.
Inch'Allah.
Merci, toi aussi. Assalamu alaikum.
Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.